Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.net dans l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs, proposée et réalisée par James Fontaine,
Nathalie Vautier
et Christophe Becquereau à la technique. Des amis viennent parfois lire ici avec nous. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Sauve. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs viennent sonder l'intérieur et l'extérieur de nos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était dû qu'à une suite de rencontres ? Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de garder tes volets fermés ou de laisser entrer la lumière.
De regarder longtemps et avec une profonde mélancolie le laboureur d'Holbein, et je me promenais dans la campagne, rêvant à la vie des champs et à la destinée du cultivateur. Sans doute, il est lugubre de consumer ses forces et ses jours à fendre le sein de cette terre, jalouse, qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu'un morceau de pain, le plus noir et le plus grossier, est à la fin de la journée l'unique récompense et l'unique profit attaché à un si dur labeur. Ces richesses qui couvrent le sol, ces moissons, ces fruits, ces bestiaux orgueilleux qui s'engraissent dans les longues herbes, sont la propriété de quelques-uns et les instruments de la fatigue et de l'esclavage du plus grand nombre. L'homme de loisir n'aime en général pour eux-mêmes ni les champs, ni les prairies, ni le spectacle de la nature, ni les animaux superbes qui doivent se convertir en pièces d'or pour son usage. L'homme de loisir vient chercher un peu d'air et de santé dans le séjour de la campagne. Puis, il retourne dépenser dans les grandes villes le fruit du travail de ses vassaux. De son côté, l'homme de travail est trop accablé, trop malheureux et trop effrayé de l'avenir pour jouir de la beauté des campagnes et des charmes de la vie rustique. Pour lui aussi, les champs dorés, les belles prairies, les animaux superbes représentent des sacs d'écus dont il n'aura qu'une faible part, insuffisante à ses besoins et que pourtant il faut remplir chaque année ces maudits sacs pour satisfaire le maître et payer le droit de vivre parcimonieusement et misérablement sur son domaine. Et pourtant, la nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres et toutes les plantes qu'on laisse s'y développer à souhait. Elle possède le secret du bonheur et nul n'a su le lui ravir. Le plus heureux des hommes serait celui qui, possédant la science de son labeur et travaillant de ses mains, puisant le bien-être et la liberté dans l'exercice de sa force intelligente, aurait le temps de vivre par le cœur et par le cerveau, de comprendre son œuvre et d'aimer celle de Dieu. L'artiste a des jouissances de ce genre, dans la contemplation et la reproduction des beautés de la nature. Mais, en voyant la douleur des hommes qui peuplent ce paradis de la terre, l'artiste, au cœur droit et humain, est troublé au milieu de sa jouissance. Le bonheur serait là où l'esprit, le cœur et les bras travaillent de concert sous l'œil de la Providence. Une sainte harmonie existerait entre la munificence de Dieu et les ravissements de l'âme humaine. C'est alors qu'au milieu de la piteuse et affreuse mort, marchant dans son sillon, le fouet à la main, le peintre d'allégorie pourrait placer à ses côtés un ange radieux, semant à pleine main le blé béni sur le sillon fumant. Et le rêve d'une existence douce, libre, poétique, laborieuse et simple pour l'homme des champs n'est pas si difficile à concevoir qu'on doive le reléguer parmi les chimères. Le mot triste et doux de Virgile, heureux l'homme des champs s'il connaissait son bonheur, est un regret. Mais comme tous les regrets, c'est aussi une prédiction. Un jour viendra où le laboureur pourra aussi être un artiste. Sinon pour exprimer, ce qui importera assez peu alors, du moins pour sentir le beau. Croit-on que cette mystérieuse intuition de la poésie ne soit pas en lui déjà à l'état d'instinct et de vagues rêveries? Chez ceux qu'un peu d'aisance protège dès aujourd'hui, et chez qui l'excès du malheur n'étouffe pas tout développement moral et intellectuel, le bonheur pur, senti et apprécié est à l'état élémentaire. Et d'ailleurs, si du sein de la douleur et de la fatigue, des voix de poètes se sont déjà élevées, pourquoi dirait-on que le travail des bras est exclusif des fonctions de l'âme? Sans doute, cette exclusion est le résultat général d'un travail excessif et d'une misère profonde. Mais qu'on ne dise pas que quand l'homme travaillera modérément et utilement, il n'y aura plus que de mauvais ouvriers et de mauvais poètes. Celui qui puise de nobles jouissances dans le sentiment de la poésie est un vrai poète. N'eût-il pas fait un vers dans toute sa vie?
Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, I'd run away. Leave myself first class and first rate. And all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awake in a world with a clear conscience and clean hands. 'Cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat every bit of food. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have. Is your soul.
Je traverse des jours sans direction. Prononce des mots sans gravité. Vis dans les ténèbres, sans visibilité. Je suis sans gouverne dans la vie, que l'inquiétant au-dessus de ma tête, comme un grand oiseau noir naissant, le visage de la nuit. Quand je contemple ma main, objet étranger qui me ressemble, je ne suis dans aucun pays. Je ne suis soumise à aucun présent, aucun ici. Je ne suis soumise à rien. C'est comme si je devais braver l'univers, lequel peut bien passer impassible, sauf que plus aucun signe ne doit advenir. Si je contemple ma main, qui m'est étrangement semblable, et une autre pourtant, est-elle plus que ce que je suis? A-t-elle un sens plus éminent? Un jour, le crépuscule reviendra. La nuit tombera des étoiles. Nous serons, corps étendus, proches d'ici, loin d'ici. Des ténèbres montent de douces et brèves mélodies. Écoutons-nous perdre nos habitudes. Brisons enfin les rangs. Voix au loin, proche chagrin. Toutes les voix de ces défunts que nous avions envoyés en courrier pour nous guider dans l'endormissement. Justice et liberté. Frères, ne dites pas que l'aurore brille devant nous. Justice et liberté. Frères, osez. Demain, nous recerons le diable à mort. Venu des montagnes, montez des vallées, traînez le poids aux pieds. Justice et liberté. Frères, ne posez pas de questions. Nous seuls sommes le tribunal du monde. Vaste terre, rues étroites. Frères, c'est notre foulée. Pleurez, rire. Aimer, haïr, nous entraînons tous les dieux avec nous. Je sais que les routes sont détruites, où la trace des roues brille-t-elle, sortie admirablement, intacte de ruines antiques. Je sais que les maisons sont tombées, nous y entrions dans le temps, étonnamment certains qu'il est plus durable que nous-mêmes. La lune que, cette fois, nous avons oubliée, porte-t-elle encore dans sa plus durable lumière les fers des chevaux, comme un écho venu du visage mutique des flots? La tristesse est comme une lumière dans le cœur allumé. L'obscurité est comme une lueur qui sonde notre nuit. Nous n'avons qu'à allumer la petite lumière du deuil. Pour traversons la longue et vaste nuit, comme des ombres, nous retrouver chez nous. La forêt est éclairée, la ville, la route et l'arbre. Heureux celui qui n'a pas de patrie, il la voit encore dans ses rêves. Ce furent les adieux. Bien des amis nous accompagnèrent. Et qui ne vint pas n'était plus un ami. Ce fut le soir. Avec hésitation, il ralentit le pas. et par la fenêtre sortit nos âmes. Ce fut le train, arpenta au vol la campagne et s'immobilisa dans l'étroitesse de bien des villes. C'est l'arrivée. Le pain ne s'appelle plus pain. Et le vin, dans une langue étrangère, modifie l'entretien.
Colors on the street, red and white. arbre, je m'y colle dans la petite voix de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Un arbre pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand, où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand, et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, remontez l'arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand. Il y a un arbre, pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre, pigeon vole.
Il y a longtemps de cela, alors que je parcourais l'une des anciennes réserves de hêtres de mon district, de curieuses pierres moussues ont attiré mon attention. J'étais passée maintes fois à côté sans les remarquer, jusqu'à ce jour où je me suis arrêtée et accroupie. Leur forme en léger arc de cercle était peu ordinaire. En soulevant un peu la mousse, je mis au jour de l'écorce. Ce que je croyais être des pierres était en fait du vieux bois. Le bois de hêtre, pourrissant habituellement en l'espace de quelques années sur un sol humide, la dureté du morceau que j'examinais m'étonna. Surtout, je ne pouvais pas le soulever. Il était solidement ancré dans le sol. Je grattai un petit morceau de cette écorce avec un canif et découvris une couche verte. Verte ? Cette couleur n'apparaît que lorsqu'il y a présence de chlorophylle, soit dans les feuilles fraîches, soit stockée sous forme de réserve dans les troncs des arbres vivants. Une seule explication était possible, ce morceau de bois n'était pas mort. À y regarder de plus près, les autres pierres n'étaient pas disposées au hasard, mais formaient un cercle de 1,50 m de diamètre. Je me trouvais en présence des très anciens vestiges d'une immense souche d'arbres. Il ne subsistait que quelques fragments de ce qui avait été jadis l'écorce, tandis que l'intérieur s'était depuis longtemps décomposé et transformé en humus. Deux indices qui permettaient de conclure que l'arbre avait dû être coupé entre 400 et 500 ans auparavant. Mais comment était-il possible que des vestiges survivent aussi longtemps ? Les cellules se nourrissent de sucre, elles doivent respirer, se développer, ne serait-ce qu'un minimum. Or, sans feuilles, donc sans photosynthèse, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation de nourriture de plusieurs centaines d'années. Et cela vaut aussi pour les vestiges d'arbres, du moins pour les souches qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celle-ci. Elle bénéficiait de l'aide que les arbres voisins lui apportaient par l'intermédiaire des racines. La transmission des substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppe les pointes des racines et contribue ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol. Mais une chose était sûre, les hêtres environnants lui diffusaient une solution de sucre pour la maintenir en vie. On peut observer cette association des arbres par leurs racines au bord des chemins, là où la pluie a lessivé la terre, des talus, et mis au jour des systèmes racinaires. Des scientifiques ont constaté dans le massif forestier du Harz, en Allemagne, que la plupart des individus d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L'échange de substances nutritives et l'intervention des arbres voisins en cas de besoin seraient la norme. Il apparaît ainsi que les forêts sont des super-organismes, des organisations structurées comme le sont par exemple les fourmilières. Il est légitime de se demander si les racines des arbres ne se développent pas au hasard dans le sol et ne s'associent pas simplement avec les congénères rencontrés sur leur chemin. L'échange de substances nutritives ne serait pas intentionnel et la structure en communauté sociale serait un leurre, puisque seules des transmissions fortuites seraient à l'œuvre. La belle image d'une entraide active céderait la place à la loi du hasard, qui serait toutefois également d'intérêt pour l'écosystème forestier. le fonctionnement de la nature n'est pas aussi simple. Les végétaux, par conséquent les arbres, sont parfaitement capables de distinguer leurs racines de celles d'espèces différentes, et même de celles d'autres individus de la même espèce. Mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social ? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents ? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines. À plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau et augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée par lesquelles les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être les rôles s'inverseront-ils et ce sera l'arbre soutien qui à son tour aura besoin d'aide. Les gros hêtres à l'écorce grise qui se protègent mutuellement me font penser aux éléphants qui vivent en troupeau. Eux aussi défendent chacun des membres du groupe, eux aussi aident les malades et les moins vaillants à reprendre de la vigueur et ne laissent qu'à regret leur mort derrière eux. Chaque arbre représente une part de la communauté, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. La plupart des souches pourrissent et se transforment en humus en quelques décennies, un laps de temps très court pour un arbre. Les individus qui survivent plusieurs siècles, comme ces pierres moussues, ne sont que peu nombreux. Pourquoi une telle différence ? Y aurait-il chez les arbres une société à deux vitesses ? Le terme vitesse est impropre, mais l'idée est juste. En réalité, c'est du degré de lien, voire d'empathie, que dépend la serviabilité des collègues. Levez les yeux vers les houppiers au sommet du tronc et vous l'observerez par vous-même. Un arbre ordinaire s'étale jusqu'à ce que sa ramure rencontre l'extrémité des branches d'un voisin de même envergure. Il ne peut pas aller plus loin car l'espace aérien, ou plutôt l'espace lumineux, est déjà occupé. Mais il met une belle énergie à renforcer ses branches latérales comme pour s'armer contre son voisin. En comparaison, deux véritables amis veillent d'emblée à ne pas déployer de trop grosses branches en direction de l'autre, pour ne pas empiéter sur le domaine du partenaire. Chacun développe son houppier exclusivement vers l'extérieur, vers des non-amis. Ces couples sont liés si intimement par leurs racines qu'ils meurent parfois en même temps. Les belles amitiés qui vont jusqu'à alimenter une souche en substances nutritives s'observent uniquement dans les forêts naturelles. Il est possible que toutes les espèces pratiquent le même altruisme, pas seulement les êtres. Pour ma part, j'ai également rencontré de très anciennes souches encore vivantes, de chênes, de sapins, d'épicéas et de douglas. Les forêts plantées, comme le sont la plupart des forêts du conifère du centre de l'Europe, fonctionnent plutôt sur le schéma des enfants des rues, dont nous parlerons plus loin. La plantation endommageant durablement les racines, elle peine à se constituer en réseau. Les arbres de ces forêts sont des solitaires dont les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Il est vrai qu'ils ne sont pas destinés à atteindre un âge canonique, puisque selon les espèces, leurs troncs sont déjà considérés comme matures et bons à être récoltés au bout d'une centaine d'années.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise.
Oh, yeah.
Promise to me
you'll dream
a little dream of me.
Le langage des arbres. D'après le dictionnaire, le langage est la capacité des hommes à s'exprimer et à communiquer entre eux. Nous serions donc les seuls aptes à parler, puisque la notion ainsi définie se limite à notre espèce. Est-ce bien certain? Pourquoi les arbres ne s'exprimeraient-ils pas? Une chose est sûre, ils ne parlent pas et n'émettent aucun son. Les branches qui craquent quand il y a du vent, le bruissement du feuillage sont des phénomènes passifs, indépendants de leur volonté. Les arbres disposent cependant d'un moyen d'attirer l'attention, l'émission d'odeurs. Les odeurs seraient un moyen de communication? Mais oui, et même un moyen auquel nous reconnaissons une certaine efficacité. Sinon, pourquoi utiliserions-nous du parfum et des déodorants? Notre seule odeur corporelle suffit pourtant à interpeller le conscient et le subconscient de nos congénères. Il existe des personnes que nous ne pouvons pas sentir, d'autres au contraire dont l'odeur nous attire irrésistiblement. D'après les scientifiques, les phéromones présentes dans la sueur joueraient un rôle déterminant dans le choix du partenaire avec lequel nous souhaitons nous reproduire pour assurer notre descendance. Nous possédons un langage olfactif secret, ce dont les arbres peuvent aussi se prévaloir. Dans les années 70, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia de la savane africaine dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contrariants, les acacias augmentent en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers les acacias voisins. Voisins? Non, pas tout à fait. Elles ignorent tous ceux qui se trouvent dans le périmètre immédiat du premier arbre et ne recommencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. La raison en est surprenante. Les acacias agressés émettent un gaz avertisseur, dans ce cas de l'éthylène, qui informe leurs congénères de l'imminence d'un danger. Aussitôt, les individus concernés réagissent en augmentant à leur tour la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Les girafes qui n'ignorent rien du manège se déplacent jusqu'aux arbres non avertis, ou bien elles remontent le vent. Les messages olfactifs étant transportés d'arbre en arbre par l'air, si elles se déplacent dans le sens contraire au vent, le premier arbre voisin n'aura pas été informé de leur présence et elles n'auront pas à interrompre leur repas. Nos forêts tempérées sont le théâtre de phénomènes similaires. Les hêtres, les chênes, les sapins réagissent eux aussi dès qu'un intrus les agresse. Quand une chenille plante ses mandibules dans une feuille, le tissu végétal se modifie aussitôt autour de la morsure. Au surplus, il envoie des signaux électriques, exactement comme cela se produit dans le corps humain en cas de blessure. L'impulsion ne se propage pas en millisecondes comme chez nous, mais à la vitesse d'un centimètre par minute. Il faut compter une heure de plus pour que les anticorps qui vont gâcher la suite du repas des parasites soient synthétisés. Les arbres ne sont pas des rapides, et danger ou pas, c'est là leur vitesse maximale. En dépit de cette lenteur, aucune partie de l'arbre ne fonctionne isolément. Un agresseur met les racines en difficulté, l'information gagne l'ensemble de l'arbre et déclenche si nécessaire l'émission de substances odorantes par les feuilles. Pas de n'importe quelle substance. L'arbre les fabrique sur mesure en fonction de l'objectif à atteindre. Cette aptitude à réagir de façon ciblée l'aide à juguler l'attaque en quelques jours. Parmi tous les insectes qu'il sait reconnaître, un arbre est en effet capable de repérer le chenapan qui s'en prend à lui, car chaque espèce possède une salive spécifique qui permet de l'identifier avec certitude. Le système fonctionne si bien que des substances attirantes peuvent être émises pour ameuter des prédateurs spécialistes de l'espèce qui vont se faire une joie de prêter main forte aux arbres en dévorant les parasites. Les ormes et les pins font ainsi appel à des petites guêpes qui pondent leurs œufs dans le corps des chenilles qui les envahissent. Les larves de guêpes y éclosent à l'abri, puis se développent en dévorant petit à petit la grosse chenille de l'intérieur. Il existe des morts plus douces, je le concède, mais c'est à ce prix que l'arbre libéré de ses parasites peut de nouveau croître et embellir. Petite parenthèse, leur capacité à identifier la salive d'un insecte prouve que les arbres, parmi d'autres spécificités, possèdent également un sens du goût. Les odeurs ont l'inconvénient de se diluer si rapidement dans l'air que leur rayon d'action est souvent inférieur à 100 mètres. Ce défaut est néanmoins contrebalancé par un double champ d'intervention. La diffusion du signal d'alerte au sein de l'arbre étant très lent, utiliser la voie des airs permet à l'arbre de franchir de grandes distances en peu de temps et ainsi de prévenir beaucoup plus vite les parties de son corps éloignées de plusieurs mètres. L'appel à l'offensive antiparasite n'a souvent même pas besoin de cibler une espèce. Le monde animal perçoit tous les signaux chimiques émis par les arbres et sait qu'une attaque est en cours et à quelle espèce appartiennent les agresseurs. Quiconque est friand des petits organismes à l'œuvre se sent irrésistiblement attiré. Les arbres sont toutefois capables de se défendre seuls. Les chênes envoient des tanins amers et toxiques dans leur écorce et leurs feuilles. Si les ravageurs ne sont pas exterminés, au moins cela transforme-t-il la succulente salade en verdure immangeable. Les saules obtiennent le même résultat en fabriquant de la salicyline aux effets tout aussi destructeurs. Chez les insectes, pas chez nous autres humains, où une tisane d'écorce de saule, ancêtre de l'aspirine, atténue au contraire les maux de tête et la fièvre. Ce système de défense prenant du temps à se mettre en place, le bon fonctionnement du réseau d'alerte précoce est déterminant. Les arbres évitent de se reposer sur la seule voie des airs qui ne garantit pas que tous les voisins aient vent du danger. Ils préfèrent assurer leurs arrières en envoyant aussi leur message aux racines qui relient tous les individus entre eux et travaillent avec la même efficacité qu'il pleuve ou qu'il vente. Les informations sont transmises chimiquement, mais aussi, ce qui est plus surprenant, électriquement, à la vitesse d'un centimètre par seconde. Comparé à la vitesse de diffusion au sein du corps humain, c'est d'une extrême lenteur. Mais il existe aussi dans le règne animal des espèces comme les méduses ou les vers qui ne sont guère plus rapides. Dès qu'ils ont connaissance de la nouvelle, tous les chênes environnants mettent à leur tour de grandes quantités de tanins en circulation dans leurs vaisseaux. Les racines d'un arbre s'étendent sur une surface qui dépasse de plus du double l'envergure de la couronne. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines qui crée autant de points de contact et d'échange entre les arbres. Ce n'est pas systématique, car une forêt héberge aussi des solitaires et des individualistes réfractaires à toute idée de collaboration. Suffirait-il qu'une poignée de ronchons refuse de participer pour bloquer la diffusion de l'alerte ? Non. Heureusement, car la plupart du temps, des champignons sont appelés à la rescousse pour garantir la continuité de la transmission. Ils fonctionnent sur le même principe qu'Internet, par fibre optique. La densité du système de filaments qu'ils développent dans le sol est à peine imaginable. Pour vous donner une idée, une cuillerée à café de terre forestière contient plusieurs kilomètres de ces filaments appelés hyphes. Au fil des siècles, un unique champignon peut ainsi s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et mettre en réseau des forêts entières. En transmettant les signaux d'un arbre à un autre par ses ramifications, il concourt à l'échange d'informations sur les insectes, la sécheresse du sol ou tout autre danger. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même de Wood Wide Web pour évoquer l'activité de ce réseau forestier. La recherche sur le type de volume d'informations échangées est encore embryonnaire. Des contacts entre espèces différentes, alors même qu'elles se considèrent comme concurrentes, ne sont pas exclus. Les champignons ont en effet une stratégie qui leur est propre et ils peuvent être de très efficaces intermédiaires. Les défenses d'un arbre affaibli s'émoussent, mais sans doute aussi son aptitude à communiquer. Sinon, comment expliquer que les insectes agresseurs ciblent leurs attaques précisément sur les individus fragiles ? Il n'est pas inconcevable qu'ils écoutent les arbres, cherchent à capter les signaux chimiques d'alerte et testent d'une morsure dans l'écorce ou d'une feuille la réactivité des individus silencieux. Parfois, le mutisme est imputable à une atteinte pathologique grave, mais il peut aussi résulter d'une rupture de l'association avec le réseau de champignons. Coupé de toute information, l'arbre ignore qu'un danger le menace et s'est buffé à volonté pour les chenilles et les coléoptères. Les individualistes mentionnés plus haut sont tout aussi fragiles. Ils présentent certes les signes d'une parfaite santé, mais leur isolement les condamne à l'ignorance. Les arbres ne sont pas les seuls à communiquer ainsi entre eux. Les buissons, les graminées échangent aussi, et probablement toutes les espèces végétales présentes dans la communauté forestière. En revanche, dès que l'on pénètre dans une zone agricole, la végétation devient très silencieuse. La main de l'homme a fait perdre aux plantes cultivées beaucoup de leur aptitude à communiquer par voie souterraine ou aérienne. Quasi muettes et sourdes, elles sont une proie facile pour les insectes. L'utilisation massive de pesticides par l'agriculture moderne trouve là une de ses explications. Les exploitants de terres agricoles gagneraient à s'inspirer du fonctionnement des forêts et à laisser un peu de naturel réinvestir les cultures de céréales et de pommes de terre pour qu'elle recouvre la parole. Les arbres et les insectes ont d'autres raisons de communiquer que les seules tristes questions d'agression parasitaire et de maladie. Les signaux agréables existent, et vous en avez sûrement déjà perçu, ou plus précisément senti. Je veux parler des messages olfactifs envoyés par les fleurs. Le parfum qu'elles émettent n'est ni fortuit, ni destiné à nous séduire. Les arbres fruitiers, les saules ou les châtaigniers diffusent des messages olfactifs pour attirer l'attention et inviter les abeilles à venir faire le plein chez eux. Le doux nectar que les insectes butinent est la récompense de la pollinisation qu'ils accomplissent à leur insu. La forme et la couleur des fleurs sont elles aussi des signaux destinés à les distinguer de toute la verdure du feuillage, un peu comme des panneaux publicitaires qui indiquent l'entrée d'un restaurant. Nous savons désormais que les arbres communiquent olfactivement, visuellement et électriquement, par l'intermédiaire de sortes de cellules nerveuses situées aux extrémités des racines. Mais qu'en est-il de l'émission de son, donc de l'ouïe et de la parole ? Quand j'affirme au début de ce chapitre que les arbres n'émettent aucun son, peut-être ne devrais-je pas être aussi péremptoire. Une équipe de chercheurs autour de Monica Gagliano de l'Université d'Australie-Occidentale a entrepris d'écouter le sol. Travailler sur des arbres en laboratoire étant mal commode, ils ont préféré porter leur étude sur des semis de céréales, plus aisés à manipuler. Et de fait, les appareils de mesure ont rapidement enregistré un léger craquement des racines d'une fréquence de 220 Hz. Des racines qui craquent, est-ce si extraordinaire ? Le bois mort aussi craque, ne serait-ce que lorsqu'il brûle. Le bruit constaté en laboratoire avait cependant de quoi interpeller. En effet, les racines des germes non impliquées y réagissaient. Dès qu'elles étaient exposées à un craquement de 220 Hz, les pointes s'orientaient dans la direction du bruit. Cela signifie que les graminées perçoivent cette fréquence. En d'autres mots, elles entendent. Les végétaux échangeraient des informations par ondes sonores. L'idée ouvre de formidables perspectives. Communiquer par ondes sonores, nous savons le faire. Pour le coup, mon imagination s'emballe. Quel bouleversement si nous avions accès à ce que des hêtres, des chênes ou des pins ressentent, si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là. L'exploration de ce domaine scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'empêche, lors d'une prochaine excursion en forêt, si vous percevez de légers craquements, pas sûr que ce soit le seul fait du vent.
Je ne sais quel remords, et elle va se quitter par de ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. facile, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, 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 ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. Par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. Je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Facile, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore, aïe, à la baisse mon décor. Facile, je fais des ratures. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. Ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. Par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. Ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. I never feel the same. Ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same.
Tous solidaires. Des jardiniers amateurs me demandent souvent si leurs arbres ne sont pas plantés trop près les uns des autres et ne souffrent pas d'un manque de lumière et d'eau. Cette inquiétude est directement issue de ce que nous savons de la sylviculture. On attend d'une forêt qu'elle produise de gros troncs prêts à être récoltés en peu de temps. Les arbres ont donc besoin de beaucoup de place et leur houppier doit être bien développé et régulier. Remplir ces deux critères exige l'abattage systématique tous les 5 ans des individus censés leur faire concurrence. Comme les arbres n'ont pas le temps de vieillir et partent pour la Syrie dès qu'ils ont 100 ans, les effets négatifs sur leur santé sont à peine décelables. Les effets négatifs. Le bon sens ne veut-il pas qu'un arbre se développe mieux quand il n'est pas gêné par des concurrents? Quand son feuillage est baigné de soleil? Quand ses racines disposent de toute l'eau souhaitée? Pour les individus qui appartiennent à des espèces différentes, c'est effectivement le cas. Ils se disputent bel et bien l'accès à la lumière et aux ressources du sol. Pour des arbres de la même espèce, en revanche, la situation est tout autre. J'ai évoqué plus haut l'amitié et l'entraide dont les hêtres pouvaient faire preuve. Une forêt n'a aucun intérêt à perdre ses individus les plus faibles. Elle n'y gagnerait que des espaces vides et cela déstabiliserait le fragile équilibre entre pénombre et haute humidité de l'air qui caractérise son microclimat. Il est vrai qu'en contrepartie, chaque individu pourrait se développer librement et vivre sa vie sur son micro-lopin de terre. Mais certains arbres, dont les hêtres, sont de fervents défenseurs d'une justice distributive. Vanessa Burch, de l'université d'Aix-la-Chapelle, a fait une étonnante découverte sur la photosynthèse dans les forêts naturelles de hêtres. Les arbres se synchroniseraient de façon que tous aient les mêmes chances de développement. Cela ne va pas du tout de soi. Chaque hêtre pousse à un emplacement particulier. Selon que le sol est caillouteux ou meuble, qu'il renferme beaucoup ou peu d'eau, qu'il offre une abondance de nutriments ou est très pauvre, sa qualité peut varier du tout au tout en l'espace de quelques mètres. Tous les arbres ne bénéficient pas des mêmes conditions de développement. Certains vont pousser plus vite que d'autres et par voie de conséquence, fabriquer plus de glucides et de bois. Le résultat de l'étude est d'autant plus surprenant, les arbres compensent mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol par les racines. Et les échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne généreusement et qui peine à se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire. Nous retrouvons ici aussi les champignons dont l'immense réseau agit cette fois en machine à redistribuer géante. En somme, le système fonctionne un peu comme nos services d'aide sociale. Dans ce contexte, les hêtres ne sont jamais trop serrés, bien au contraire. Plus ils sont proches les uns des autres, mieux c'est. L'espacement des troncs de moins d'un mètre, que l'on rencontre souvent, leur convient très bien, même si leur houppier demeure petit et ramassé. Les forestiers sont encore nombreux à juger cela néfaste pour les arbres, et les opérations d'éclaircissage consistant à abattre les spécimens réputés inutiles sont fréquentes. Des forestiers de Lübeck ont cependant observé qu'une forêt de hêtres dont les individus poussent serrés est plus productive. L'augmentation annuelle de la production de biomasse, notamment de bois, atteste de la bonne santé des peuplements denses. Quand ils vivent en groupe serré, la répartition des substances nutritives et de l'eau entre tous les individus est optimale, si bien que chaque arbre parvient au meilleur développement possible. Si l'on aide ici et là un individu à se débarrasser de sa supposée concurrence, les arbres restants deviennent des solitaires. Ils ne sont plus entourés que de souches et les connexions se perdent dans le vide. Chacun se débrouille comme il peut dans son coin, avec pour conséquence de gros écarts de productivité. Chez certains individus, la photosynthèse tourne à plein régime et la production de glucose est pléthorique. Ils poussent mieux que les voisins et sont en excellente forme. Pour autant, leur durée de vie n'est pas remarquable, car la condition d'un arbre ne peut pas être meilleure que celle de la forêt qui l'entoure. Et il y a désormais beaucoup de mal lotis autour de lui. Les individus en situation de faiblesse, qui étaient auparavant soutenus par les plus forts, se retrouvent tout d'un coup à la traîne. Une implantation dans un sol pauvre en éléments nutritifs, un stress temporaire ou un bagage génétique défavorable, et ils sont la proie des insectes et des champignons. Que seuls les plus forts survivent, cela ne va-t-il pas dans le sens de l'évolution ? Je crains que les arbres ne soient pas de cet avis. Leur bien-être dépend de la communauté. Si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. La forêt devient ouverte à tout, aux brûlures du soleil, aux vents violents qui pénètrent jusqu'au sol et modifient l'environnement climatique, frais et humide. Même les arbres robustes sont victimes de maladies plusieurs fois au cours de leur vie et dépendent de l'aide de leurs voisins plus faibles. Super champion ou pas, si celle-ci n'est plus disponible, une insignifiante invasion d'insectes suffit à sceller leur destin. J'ai moi-même déclenché un cas d'entraide extraordinaire. Au début de ma carrière, j'ai fait cercler des jeunes hêtres. La pratique consiste à éliminer une large bande d'écorce à une hauteur d'un mètre pour induire la mort de l'arbre. Dans cette méthode d'écorçage, les troncs ne sont pas coupés, les arbres dévitalisés restent sur pied à l'état de bois mort. Ils libèrent néanmoins de la place pour les arbres vivants, car leur houppier dépourvu de feuilles laisse passer beaucoup de lumière. La pratique vous paraît barbare ? C'est aussi mon avis. Car la mort survient au terme d'années de résistance, et je ne m'autoriserai pas plus un tel mode de gestion. J'ai pu voir de mes yeux combien les hêtres luttaient pour survivre, au point que certains ne sont toujours pas morts. Cela ne devrait pas être possible. En théorie, sans continuité de l'écorce, les feuilles ne peuvent plus envoyer de sucre aux racines. Affamées, celles-ci cessent leur activité de pompage, l'eau ne circule plus dans l'arbre, le houppier n'est plus alimenté, et l'arbre entier se dessèche et meurt. Pourtant, un nombre important d'individus ont continué tant bien que mal à pousser. Depuis, je sais que ce miracle tient à l'aide active des voisins qui n'avaient pas perdu leur intégrité. En assurant l'alimentation des racines par leurs ramifications souterraines, ils ont permis la survie de leurs compagnons. Certains sont même parvenus à fabriquer de l'écorce pour recouvrir la plaie de leur tronc. Je dois avouer que j'ai toujours un peu honte quand je vois ce que j'ai fait, quoique j'y ai aussi appris combien la communauté des arbres peut être efficace. La solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Cet adage issu du monde artisan aurait pu être inventé par les arbres. Sans doute, est-ce parce qu'ils en ont la connaissance intuitive qu'ils cèdent les uns les autres sans condition.
Thank you. seed in the autumn ground. True love seed in the autumn ground. When will it be found? True love deep in the winter white snow. True love deep in the winter white snow. How long will it take to grow? You know true love buds in the April air, the April air. Was there ever a bud so fair? True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms home. The July tree. True love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms high upon the July tree.
Les arbres vivent en équilibre interne. La satisfaction de leurs besoins exige qu'ils répartissent et gèrent leurs forces avec soin. Une part de leur énergie est dédiée à la croissance. Les branches doivent être prolongées. Le tronc, qui supporte un poids croissant, doit gagner en diamètre. Une seconde part est mise de côté pour activer la production de substances répulsives dans les feuilles et l'écorce dès que survient une attaque de ravageurs ou de champignons. Reste la reproduction. Chez les espèces qui fleurissent chaque année, l'exploit s'inscrit dans un processus prévisible où toutes les forces s'équilibrent. En revanche, chez les espèces comme le hêtre ou le chêne, qui ne fleurissent que tous les 3 ou 5 ans, l'événement est très déstabilisant. La majeure partie de l'énergie a déjà été destinée à autre chose. Au surplus, les faines et les glands sont produits en de telles quantités qu'ils priment sur tout le reste. Le premier souci est celui de l'encombrement des branches. Aucune place n'y étant prévue pour les fleurs, c'est aux feuilles de libérer l'emplacement qui était le leur. Quand les fleurs fanées tombent au sol, les arbres ont un drôle d'aspect déplumé. Rien d'étonnant à ce que ces années-là, les constats forestiers signalent la prévalence de houppiers défeuillés. Dès lors que les arbres ont fleuri et fané en même temps, à première vue, la forêt paraît malade. Elle n'est pas malade, certes, mais elle est tout de même fragilisée. Pour fabriquer cette profusion de fleurs, les arbres puisent en effet dans leurs dernières réserves. Pour compliquer le tout, le feuillage, contraint de réduire son ampleur, produit moins de sucre que les années ordinaires. Et nouvel handicap, la majeure partie de ces sucres est transformée en lipides dans les graines, si bien qu'il en reste à peine pour la construction de l'arbre lui-même et les stocks à constituer pour l'hiver. Sans parler des réserves d'énergie théoriquement prévues pour résister aux maladies. Une foule d'insectes n'attendait que cela. Parmi eux, le charançon du hêtre, qui pour ne mesurer que 2 petits millimètres, n'en pond pas moins des millions d'œufs sur le feuillage sans défense. Ces minuscules larves creusent des galeries entre les membranes supérieures et inférieures des feuilles,
elle laisse derrière elle des taches rousses caractéristiques. Puis, le ravageur adulte perce des trous dans les feuilles qui paraissent avoir été criblés de petits plombs de chasse. Certaines années, les hêtres sont tellement infestés que de loin, le feuillage semble non plus vert, mais roux. S'ils étaient au mieux de leur forme, les arbres se défendraient. Ils empoisonneraient au sens strict du terme la nourriture des insectes. Mais la floraison les a épuisés et ils n'ont d'autre choix que de supporter l'agression en silence. Les sujets sains surmontent l'épreuve, d'autant que plusieurs années de répit succèdent à cette mauvaise saison. Mais chez un sujet affaibli, une attaque de ravageurs peut sonner le glas. Ce n'est pas pour autant que l'arbre s'abstiendrait de fleurir. Nous savons de l'observation de la floraison des sites forestiers en voie de dépérissement que ce sont précisément les sujets mal en point qui mettent le plus d'ardeur à fleurir. Sans doute est-ce afin d'assurer leur descendance avant que la mort signe la disparition définitive de leur patrimoine génétique. Des effets similaires sont induits par les records de sécheresse et de chaleur de certains étés qui mènent les arbres au bord de la rupture, puis les font abondamment fleurir le printemps suivant. Ce qui, au passage, tord le cou à l'idée qu'il vaudrait qu'une abondance de glands et de faines indique que l'hiver sera particulièrement rigoureux. La floraison se préparant au cours de l'été, une profusion de fruits renseigne tout au plus sur ce qui s'est passé quelques mois auparavant. La faiblesse des défenses de l'arbre réapparaît à l'automne, dans la qualité des graines. Le charançon, que rien n'arrête, creuse aussi des galeries dans l'ovaire des fleurs. Celles-ci sont malgré tout en mesure de produire des faines, mais elles sont vides, donc sans valeur nutritionnelle ou reproductive. Une fois les graines de l'arbre tombées à terre, chaque espèce suit sa stratégie de germination. Les graines qui somnolent sur la terre meuble et humide du sous-bois ne germent-elles pas dès que le premier soleil de printemps réchauffe l'air ? Pas toutes. Rien n'est plus dangereux pour les embryons d'arbres que de reposer sans défense sur le sol de la forêt. Au printemps aussi, l'appétit des sangliers et des chevreuils est redoutable. Pour contrer leur voracité, certaines espèces, dont celles à gros fruits comme les hêtres et les chênes, misent sur la rapidité. La plantule jaillit aussi vite que possible de la faine ou du gland, afin qu'ils perdent leur attrait auprès des herbivores. Pour ces graines, la stratégie s'arrête là. Aucune défense de longue durée n'est prévue contre les champignons et les bactéries. Les mâles réveillés, qui laissent passer la germination et sont toujours intacts à la fin de l'été, vont rester sur place et pourrir jusqu'au printemps suivant. De nombreuses espèces donnent cependant à leurs graines la possibilité d'attendre une ou plusieurs années avant de démarrer. Le risque de se faire avaler est certes accru d'autant, mais les avantages sont considérables. En cas de printemps sec, si les plantules meurent de soif, toute l'énergie investie dans la reproduction aura été vaine. De même, si un chevreuil vient parcourir son territoire et justement s'arrête pour brouter là où la graine est tombée, à peine la plantule aura-t-elle déployé quelques goûteuses et tendres feuilles qu'elles seront englouties. Mais si une partie des graines ne germe qu'une ou plusieurs années plus tard, la nouvelle répartition des risques est telle que le développement de quelques arbustes est assuré. Cette méthode est adoptée par le sorbier des oiseleurs. Ces graines peuvent rester en dormance jusqu'à 5 années avant de rencontrer des conditions propices à la germination. Espèce pionnière type, elle ne pouvait choisir meilleure stratégie. Tandis que les faines et les glands tombent toujours au pied de leur mère arbre, ce qui garantit aux germes de se développer dans un environnement forestier favorable, les sordes peuvent atterrir partout. Rien en effet n'est moins prévisible que l'endroit où l'oiseau qui a consommé le petit fruit âpre rejette les graines dans leur boulette d'engrais. Si le milieu est ouvert, les températures élevées et le manque d'eau des années extrêmes seront beaucoup plus marquées qu'à l'ombre humide des sous-bois. Dans ce cas, il vaut mieux qu'au moins une partie des graines demeure incognito et ne s'éveille à la vie que des années plus tard. Et une fois les graines sorties de leur dormance, quelles sont les chances des enfants arbres d'accéder à l'âge adulte et de se reproduire à leur tour ? Le calcul est simple. D'après les statistiques, un arbre engendre un seul et unique successeur, lequel prendra sa place le moment venu. D'ici là, des graines vont germer, de jeunes descendants vont grandir, puis végéter à l'ombre quelques années, voire quelques décennies, jusqu'au jour où ils vont rendre leur dernier souffle. Ils sont nombreux dans ce cas. Des dizaines de générations poussent ainsi au pied de leur mère, puis disparaissent les unes après les autres. Seules les rares graines chanceuses qui doivent au vent ou à des animaux d'avoir été déposées sur un petit coin de litière forestière accueillant pourront germer, grandir et se développer sans entrave.
Mais revenons aux statistiques. Un hêtre produit au moins 30 000 faines tous les 5 ans, voire tous les 2 à 3 ans avec le réchauffement climatique. Mais laissons cet aspect de côté pour l'instant. Selon la quantité de lumière qu'il reçoit, il atteint la maturité sexuelle entre 80 et 150 ans. Si l'on considère qu'il vit 400 ans au maximum, il va donc fructifier au moins 60 fois et produire au total environ 1,8 million de faines. Sur ce 1,8 million de faines, une seule deviendra un arbre. Pour une forêt, c'est un super score, quelque chose comme les 6 bons numéros du loto. Tous les autres embryons sont soit mangés par des animaux, soit transformés en humus par des champignons et des bactéries. Calculons maintenant les chances d'un enfant arbre parmi les plus mal lotis, par exemple un peuplier. La mère arbre produit annuellement jusqu'à 26 millions de graines. C'est peu dire que les rejetons peupliers envient le sort des enfants hêtres. Jusqu'à ce que les parents tirent leur révérence, ils vont en effet produire plus d'un milliard de graines qui, bien à l'abri dans leur léger cocon de bourre, vont se laisser porter vers d'autres contrées. Et là, comme ailleurs, les statistiques sont impitoyables. Il n'y aura qu'une seule gagnante.
What seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. That's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you. I think I'll marry you.
Les collines descendent dans la blancheur. Les gens, comme les étoiles, me regardent attristés. Je les déçois. Le train laisse une trace de son souffle. Oh, l'encheval couleur de rouille, sabots, tintement désolé. Tout le matin, depuis ce matin sombre, fleurs ignorées. Mes os renferment un silence. Les chants font au loin mon cœur fondre. Ils menacent de me conduire à un ciel sans étoiles, ni père, une eau noire. Un sourire est tombé dans l'herbe, irrattrapable. Et tes danses nocturnes, où iront-elles se perdre? Dans les mathématiques? De tels bonds, des spirales si pures, cela doit voyager. Pour toujours, de par le monde. Je ne resterai donc pas totalement privé de beauté. Il y a ce don de ton petit souffle, l'odeur d'herbe mouillée de ton sommeil, les lys, les lys. Leur chair ne tolère aucun contact. Plis glacés d'amour propre. L'arôme, le tigre occupé de sa parure, robe mouchetée, déploiement de pétales brûlants. Des comètes ont un tel espace à traverser, tant de froid et d'oubli. Alors, les gestes se défont. Humains et chauds, et leur éclat saigne et s'émiette à travers les noires amnésies du ciel. Pourquoi me donne-t-on ces lampes, ces planètes, qui tombent comme des bénédictions, des flocons, paillettes blanches, alvéoles sous mes yeux, ma bouche, mes cheveux, qui me touchent, puis disparaissent à tout jamais, nulle part. Mon amour, le monde tourne, le monde se colore. Le réverbère déchire sa lumière à travers les cosses du Cities ébouriffé à 9h du matin. C'est l'Arctique, ce petit cercle noir. Ces herbes fauves et soyeuses, des cheveux de bébé. L'air devient vert, un vert très doux et délicieux. Sa tendresse me réconforte, comme un bon édredon. Je suis ivre, bien au chaud. Je suis peut-être énorme, si bêtement heureuse, dans mes bottes en caoutchouc, à patauger dans ce rouge si beau, à l'écraser. Je suis ici, chez moi. Deux fois par jour, j'arpente ma terre. Je flaire le houx barbare, son fer viride et pur, et le mur des vieux cadavres. Je les aime. Je les aime comme l'histoire. Puis les pommes d'or. Imagine. Imagine mes 70 arbres, dans une épaisse et funèbre soupe grise, occupés à retenir leurs balles d'or éclatant, leurs millions de feuilles métalliques, haletantes. Ô amour, ô célibat, je suis seul avec moi, trempé jusqu'à la taille. L'or irremplaçable saigne et s'assombrit, gorge des Thermopyles. Le moteur va tuer le rail. Le rail est d'argent et s'étire jusqu'à l'horizon. Il sera dévoré de toute façon. Sa course est vaine. Au crépuscule, il y a la beauté des champs noyés. Et l'aube habille d'or les fermiers comme les cochons. Ils tanguent doucement dans leurs costumes solides. Les tours blanches de Smilsfield devant eux, l'air rempli de croupes grasses et de sang. Il n'y a pas de pitié dans l'éclat des couperets, la guillotine du boucher qui murmure « Avec ceci, avec ceci ?» Dans le saladier, avec la vie avortée du lièvre, tout embaumé d'épices, sa tête mise de côté, sa fourrure, son humanité écorchée. Mangeons-le comme le placenta de Platon, mangeons-le comme le Christ. Voilà des gens qui étaient importants. Leurs yeux ronds, leurs dents, leurs grimaces, au bout d'un bâton qui cliquette et qui claque. Sornette, faux serpent. Le capuchon du cobra va-t-il m'épouvanter ? La solitude de son œil, l'œil des montagnes, où le ciel défile sempiternellement. Le monde a la chaleur du sang, et le monde est personnel, dit l'aube en rougissant. Il n'y a pas de terminus, il n'y a que des valises, d'où se déplie la même identité, comme un costume brillant d'usure, aux poches pleines de vœux, d'opinions et de billets, de courts-circuits et de miroirs. « Je suis folle !» crie l'araignée en agitant ses bras nombreux. En vérité, elle est atroce, multipliée dans les yeux des mouches. Elles bourdonnent comme des enfants bleus dans les filets de l'infini et finissent ligotées dans la corde de la seule mort, la mort aux bâtons innombrables.
Moro perto de mar, perto de marco céu, longe de boca desse mundo, na silêncio me cunha entre teu. muore aperto di mare, aperto di mare con sé. L'angio di bocca di sondo, la e silenzio mi cugna crescer. Via di me, ben a crescer, ben pa non ben morar, per tu di Marta namorar, longe di bocca de smuto. Via di me, ben a crescer, ben pa non ben morar, di Marta namorata, l'uomo di bocca di sonno.
Deux hommes accablés roulaient en voiture. Le soleil couchant a gâché leurs yeux à travers le pare-brise poussiéreux. C'était l'été de la Saint-Jean. Sur la petite route de sable, le paysage finlandais défilait sous leurs regards là. Aucun d'eux ne prêtait la moindre attention à la beauté du soir. C'était un journaliste et un photographe en service commandé, deux êtres cyniques, malheureux. Ils approchaient de la quarantaine et leurs espoirs, qu'ils avaient nourris dans leur jeunesse, étaient loin, très loin de s'être réalisés. Ils étaient mariés, trompés, déçus et avaient chacun un début d'ulcère à l'estomac et bien d'autres soucis quotidiens. Ils venaient de se quereller pour savoir s'ils devaient rester à Helsinki ou s'il valait mieux passer la nuit à Heinola. Depuis, ils ne se parlaient plus. Ils traversaient en crabe la splendeur du soir, la tête rentrée, butée, l'esprit tendu, sans même s'apercevoir de tout ce que leur course avait de misérable. Ils voyageaient blasés, fatigués. Sur une petite colline exposée au soleil, un jeune lièvre s'essayait à bondir. Dans l'ivresse de l'été, il s'arrêta au milieu de la route, debout sur ses pattes de derrière. Le soleil rouge encadrait le levreau comme un tableau. Le photographe au volant de la voiture vit le petit animal sur la route, mais son cerveau engourdi était incapable de réagir assez vite, il ne put l'éviter. Un soulier poussiéreux écrasa lourdement le frein, mais trop tard. L'animal terrifié sauta en l'air devant le capot, on entendit un choc sourd, quand il cogna le coin du pare-brise avant de valdinguer dans les bois. « Hé, on a écrasé un lièvre !» dit le journaliste. « Putain de bestiole ! Encore heureux qu'elle n'ait pas cassé le pare-brise. » Le photographe arrêta la voiture et recula jusqu'au lieu de l'incident. Le journaliste descendit. « Tu le vois ?» demanda le photographe, à contre-cœur. Il avait baissé la vitre, mais sans couper le contact. « Quoi ?» cria le journaliste de la forêt. Le photographe alluma une cigarette, la tête à paupières closes. Il ne revint à la réalité qu'en sentant la cigarette lui brûler le bout des ongles. « Viens donc, je n'ai pas le temps de perdre avec cet idiot de lapin. » Le journaliste marchait distraitement dans le bois clairsemé. Il atteignit la lisère d'un petit carré de prairie, sauta le fossé et scruta la pelouse vert foncé. Dans les herbes, il aperçut le levreau. Sa patte arrière était cassée. Elle pendouillait tristement au-dessus du genou et l'animal était si mal en point qu'il n'essaya pas de fuir en voyant l'homme approcher. Le journaliste prit dans ses bras le levreau terrorisé. Il cassa un bout de branche et le fixa en attelle à la patte de son mouchoir déchiré en lanière. Le lièvre se protégeait la tête entre ses petites pattes de devant. Ses oreilles tremblaient tant son cœur battait fort. Au loin sur la route, on entendait le vrombissement nerveux d'un moteur. Deux coups de klaxon, hargneux et un appel. « Reviens, on n'arrivera jamais à Helsinki si tu restes à cavaler dans cette foutue forêt. » « Tu te débrouilleras seul pour rentrer si tu n'arrives pas tout de suite. » Le journaliste ne répondit pas. Il tenait le petit animal dans ses bras. Apparemment, la bête n'était blessée qu'à la patte. Elle se calmait peu à peu. Le photographe sortit de la voiture. Il scruta la forêt d'un regard furieux. Aucun signe de son collègue. Le photographe jura, alluma une cigarette et fit impatiemment quelques pas sur la route. Toujours aucune réaction dans la forêt. L'homme écrasa son mégot sur la route et cria « Reste donc imbécile et bon vent, merde !» Le photographe écouta encore un instant, mais ne recevant pas de réponse, il s'installa rageusement derrière le volant, donna les gaz, enclencha brutalement une vitesse et démarra. Le sable de la voiture crissa sous ses pneus. Un instant plus tard, la voiture avait disparu. Le journaliste était assis au fond du fossé, le lièvre sur les genoux. On aurait dit une vieille femme perdue dans ses pensées, son tricot devant elle. Les bruits de la voiture s'éteignirent. Le soleil se couchait. Le journaliste posa le lièvre sur le gazon. Il craignit un instant de voir l'animal détaler aussitôt, mais le lièvre resta blotti dans les herbes. Et quand l'homme le reprit dans ses bras, il n'avait plus du tout peur. « Nous voilà bien, » dit l'homme au lièvre. Il en était arrivé là, seul dans la forêt, en veston, par un soir d'été, tout simplement laissé pour compte. Que faisons-nous d'habitude dans ce genre de situation ? L'homme songea qu'il aurait peut-être dû répondre aux appels du photographe. Maintenant, il devrait sans doute marcher jusqu'à la route, attendre la voiture suivante et faire du stop, gagner à Inola ou Helsinki, et par ses propres moyens. L'idée était franchement déplaisante. Le journaliste ouvrit son portefeuille. Il contenait quelques billets de 100, une carte de presse, une carte de sécurité sociale, une photo de sa femme, un peu de monnaie, de préservatifs, un trousseau de clés, un vieil insigne du 1er mai. Et encore des crayons, un bloc, une bague. Sur le bloc, son employeur avait fait imprimer. Carlo Vatanen, rédacteur. D'après son numéro de sécurité sociale, Carlo Vatanen était né en 1942. Vatanen se leva, contempla les derniers feux du soleil au-delà de la forêt et hocha la tête en direction du lièvre. Il regarda vers la route, mais ne fit pas un pas pour s'y diriger. Il souleva le lièvre, l'installa soigneusement dans la poche de son veston et s'éloigna le long de la prairie vers le crépuscule naissant de la forêt.
Well, I was on the borderline of a suicidal state of mind, because all the love we had was gone. But there was just one more courier flight, and it was leaving in the cold morning light, and that's the one you can be sure that I was on. Cause I'm already gone. And I'm gonna dive, 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 dive into this pale moonlight. And I'm gonna dance, dance, dance until I fall. You know I wanna lose my head inside a song, and I'm gonna drag you all along. But don't you miss me, cause I'm already gone. I got a stack of presidents stuck way down into my pants. I got a pair of Jesus boots and a head all full of sand. Back home I never seem to get it right, but it doesn't seem to matter tonight, because I'm here and you know I'm on.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des extraits de La vie secrète des arbres de Peter Volleben, de La mare au diable de George Sand, des poèmes de Hannah Arendt, extraits du recueil Heureux celui qui n'a pas de patrie, des poèmes de Sylvia Plath, extraits de recueil Ariel, et un extrait du Lièvre de Vatanen d'Arnaud Pasilina. Nous avons lu sur des musiques de Shigeru Umebaya, de Dafer Youssef. Vous avez entendu Les Bruits de la Forêt, Barbara, Nina Simone, Les White Stripes, Mathieu Bogart, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, Tracy Chapman, Neil Young, Cesaria Evora et Firewater. Nous nous retrouvons le 27 juillet pour la prochaine émission à 18h30. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.